Comment c'est donc cet atelier qui traite donc sur la question des Shibani et de ce que d'autres appellent les anciens dans la cité et autour donc de sa table ronde. Donc il y aura donc Sylvie M. Salem, c'est ça, donc chargée d'études au CREOPS donc à Marseille, sur Marseille, et qui va nous faire une petite présentation un peu sur la problématique des Shibani et sur le volet santé. Après, il y a Antoine Matt du Gisti, donc le Gisti, ceux qui ne connaissent pas, donc association très ancienne qui traite donc de tout ce qui est lié aux droits des étrangers et des immigrés. Et après, on a Ali Bass donc de la TMF, lui qui nous parlera donc de ce qu'ils font sur cette problématique-là, et en particulier, l'illustration propose sur une action qu'ils ont menée donc au mois de juin, donc c'est le 7 juin. Autour de toutes les tracasseries que le centre d'impôt et l'administration font aux Shibani sur le contrôle de la régularité et de la constance de leur séjour en France. Moi, je ne vais pas trop parler, donc je vais passer la parole donc, à Sylvie qui va nous faire donc, un exposé sur la problématique de la santé.
Donc bonjour, je vais me présenter rapidement sur le sujet, de quel point de vue je vous parle. Donc une association qui est à Marseille, dans laquelle je travaille depuis 2 ans. Et depuis 2001, j'ai bossé sur la question des immigrés âgés en Alsace et à Marseille. Alors c'est assez scolaire, hein, j'ai pas encore terminé tout à fait l'école, donc je voulais faire des PowerPoint, mais c'était pas possible. Donc je vais essayer d'être claire sans les diaporamas. Vous m'arrêtez si ça va trop vite, etc. Donc, c'est une enquête que je vous présente, les résultats d'une enquête qui a été menée dans le centre de ville de Marseille, 1er, 2e et 3e arrondissement. Les sources principales de l'enquête, c'est des entretiens qui ont été menés, pour aller vite, auprès d'hommes algériens âgés de plus de 55 ans qui vivent en foyer ou en hôtel meublé. Alors, premier élément à retenir, un état de santé, tel qu'on le perçoit en tout cas, qui est symptomatique de leurs itinéraires. Alors, je m'explique, le travail va être un facteur central de leur état de santé physique et mentale. Alors, un petit point d'abord, c'est qu'ils ont des corps marqués par une multitude d'accidents du travail. Je vais vous donner un exemple qui est emblématique de ceux qu'ont connu nombreux d'immigrés âgés. Alors j'y vais vite, c'est une énumération, mais elle en dit plus long que 10 lignes d'analyse. Un monsieur que j'ai rencontré, qui m'a un petit peu expliqué son parcours, 1964, cheville gauche cassée, 77, lumbago d'effort, 80, lombalgie, 85, pouce droit cassé, 87, lombalgie, 88, traumatisme cervical gauche, 89, traumatisme dorsal, 92, douleur dans la région du rachis, 93, visage et yeux atteints par des produits chimiques. Voilà, en gros, c'est les hommes que vous rencontrez et les parcours qui vous explicitent quand vous les rencontrez. À ces corps qui sont visiblement marqués par ces accidents de travail, ils connaissent aussi des souffrances qui résultent de leurs conditions de travail. Il va avoir des problèmes auditifs, pourquoi ? Confrontés à des travaux de haute intensité sonore. D'autres ont perdu leurs dents parce qu'ils étaient en contact de produits chimiques, des gars que j'ai rencontrés à Péchiné, qui ont dû arrêter de travailler parce que, enfin, ils expliquaient que les produits chimiques se collaient dans les dents, dans leurs mains, etc. Des douleurs corporelles, d'arthrose, etc., du fait des postures de travail, en gros, à retenir une usure prématurée du corps. Au début, quand j'ai bossé par rapport à ce public-là et que je disais que j'allais faire des entretiens avec des personnes de plus de 55 ans, on me disait 55 ans, c'est vieux. Pour ce public-là, ça a toute sa pertinence, une faible espérance de vie et dès 55 ans, une usure prématurée du corps. Alors à ces souffrances physiques, il faut ajouter des souffrances moins visibles, des souffrances psychiques. Alors je vais essayer d'être claire, liées à une présence vécue comme illégitime. C'est-à-dire que quand vous les interrogez, ce qui a motivé le parcours, c'est le travail. Ils sont venus pour travailler, c'est le sens de leur trajectoire personnelle. Lorsqu'ils sont à la retraite, au chômage ou en maladie, ils le vivent très douloureusement parce qu'il y a une perte de sens. Alors je vais reprendre ce que disait Sayad 100 fois mieux que ce que je peux le dire, sociologue algérien, c'est que la vacance, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit la retraite, le chômage, la maladie, elle est toujours vécue par ces immigrés comme une situation de crise. Et un Algérien que je rencontrais qui me disait, à la limite, je travaillais dur, mais maintenant je fais rien, les journées sont longues, je m'ennuie, etc. Donc, une présence qui n'est pas tout à fait légitime de leur point de vue et de la société d'accueil. Ça va pas trop vite? Non, ça va? Ensuite, à ces souffrances mentales, il faut rajouter des souffrances qui sont liées à un isolement, isolement familial. Alors, dans d'autres cadres, j'avais rencontré des vieux, enfin des immigrés âgés, qui vieillissaient en famille. Et dans le discours, c'est complètement différent. Des immigrés qui vont vieillir ici en famille, en habitation à loyer modéré, quoi, en HLM, ils vont se projeter dans un avenir du fait de la présence de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ceux dont je parle aujourd'hui, ils sont célibatérisés, entre guillemets, en foyer ou en hôtel meublé. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont construit une famille au pays d'origine, femme et enfant, qui ne va pas les rejoindre. Et arrivés au moment de la retraite, ils sont partagés à la fois entre le désir d'y retourner au pays d'origine et la hantise de ne pas se sentir à l'aise. Et les expériences de vacances, c'est-à-dire les expériences de retour temporaire, leur ont fait ressentir qu'il y a eu une distance qui s'est créée entre eux et leur famille. Donc ça aussi, c'est une blessure, une douleur dans la trajectoire. Et finalement, pour justifier ce que moi j'appelle un petit peu l'injustifiable, c'est-à-dire ne pas avoir fait venir leur famille ici, ne pas être à aller les rejoindre alors qu'on ne travaille plus. Ils ne le disent pas frontalement, mais dans leur discours, ils se profilent deux types d'arguments. Ils me disaient en gros, attends, j'ai bien fait de ne pas faire venir mes gamins, parce que si j'avais fait venir mes gamins, ils auraient mal tourné, regarde ces jeunes qui crament des voitures, premier argument. Et le deuxième, pour que ce soit soutenable, c'est l'émancipation de leur femme. C'est-à-dire, si j'avais fait venir ma femme, elle se maquillerait comme une Française, je cite. Donc, finalement, j'ai bien fait de pas faire venir, de pas les faire venir. Malgré tout, une des alternatives à cette solitude, ça va être des regroupements familiaux tardifs. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des immigrés âgés qui souhaitent faire venir leur femme, alors qu'ils ont 60-70 ans, tardivement. Mais ils se heurtent, je ne vais pas trop développer parce que c'est plutôt juridique, à des conditions de ressources et de logement. C'est-à-dire, et en plus il y a un nouveau projet de loi où en plus il y aura des conditions de ressources, de logement et de maîtrise de la langue française. Comme ça, tu es sûr que c'est impossible. Donc les conditions de logement pour eux, c'est difficile puisqu'ils sont dans une chambre. Donc beaucoup de leurs demandes de regroupement familial sont déboutées. On aperçoit aussi l'arrivée de jeunes mineurs sans papier, c'est-à-dire dans la fratrie, le dernier gamin de la famille qui est resté au pays d'origine, va venir aider la personne âgée dans les foyers. Mais alors, c'est des situations d'errance pour ces jeunes qui ne sont pas scolarisés, sans papier, qui vivent en foyer et qui sont obligés en fait, de errer toute la journée pour ne rentrer qu'à 21h dans le foyer et ne pas être repérés. C'est aussi une alternative à cet isolement. Alors, ensuite, au niveau de leur socialisation, il y a un isolement. Moi, j'ai l'impression que ce foyer, c'est une bulle sociale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des relations avec des vieux originaires de la même région du pays d'origine, du même bled, et ils vivent d'une manière communautaire dans un double sens, celle que je viens de vous dire. Ils restent entre eux. Et il y a une prise de repas, un mode de vie collectif qui est caractérisé par une certaine solidarité. Mais je voudrais appuyer l'attention sur ça. C'est qu'à longueur de journée, quand vous faites des entretiens avec les acteurs de l'intégration et du vieillissement, pareil, on vous dit qu'il y a une solidarité, les vieux entre eux vont s'aider. Mais il y a trois cas où la solidarité va connaître ses limites. C'est-à-dire il y a des gens qui sont écartés du groupe parce que dits caractériels, des personnes qui ne sont pas originaires de la même région et surtout des personnes dépendantes. Et c'est l'enjeu de l'atelier aussi. C'est-à-dire un gars qui a 80 ans, qui a Alzheimer, qui est dépendant à ce point-là ou qui est dément, il ne faut plus compter sur la solidarité des gars qui sont en foyer. C'est ingérable. Et c'est là où on est confronté à des difficultés de prise en charge. Pour aller vite, je ne veux rien vous apprendre, c'est que c'est des personnes qui ont du mal à participer à des activités qui leur sont proposées. On va vous dire aussi qu'ils n'ont pas de besoins. Ah bon ? Ils ont sûrement des besoins, mais ils ne les expriment pas. Et ce qui est proposé dans un club du troisième âge, dans un quartier, ce n'est pas tout à fait adapté. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes, très peu, mais qui vivent aussi, elles, lorsqu'elles sont séparées, divorcées ou célibataires, vivent très mal cet isolement. Donc voilà, cette situation que j'ai un peu décrite rapidement font qu'ils me disent « j'ai les nerfs, j'ai un diable, je cite, qui tourne, qui travaille dans ma tête ». Donc il y a des gens qui pensent, sans le dire littéralement, au suicide, c'est-à-dire qui sont dans des situations de dépression. Et il y a une enquête qui a été menée dans le Languedoc-Roussillon qui confirme ce que moi j'ai pu voir à un petit niveau qualitatif, c'est qu'un tiers des immigrés présentent une symptomatologie dépressive contre 17% des 65 ans de la même population. Un tiers, 17%. Vous voyez l'écart. Au niveau de leurs mots MAUX, il y a une difficulté d'exprimer leurs mots. Quand je les rencontrais et que j'essayais de leur expliquer, de leur demander comment ça allait, quels étaient leurs problèmes de santé, ils ont du mal à l'exprimer en plus en français. Donc, ils vous montrent les parties du corps qui sont atteintes, la jambe, etc. Ce qui m'a fait penser que lorsqu'ils vont voir un généraliste, il faut du temps pour affiner le diagnostic et c'est souvent un temps qui n'est pas pris. Et puis, un autre élément qui fait partie aussi de l'enquête, le fait que je sois extérieure, que je ne les verrai plus finalement après, ni dans l'accès à leurs droits, ni dans un centre social, ils ont besoin de parler de leurs angoisses, ils pleurent de leurs inquiétudes et il n'y a pas de prise en charge, alors psychologique ou adaptée, par rapport à toutes ces souffrances, à tout ce qui a trait à la santé mentale. Je vais faire vite parce que sinon ça met 2 heures. Il y a un autre truc, c'est qu'il y a un malaise aussi. Pardon ? Ouais. Ah, d'accord. Il y a un malaise qui est lié à leur non-reconnaissance par la société d'accueil. Je vous explique en gros, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir beaucoup contribué, beaucoup bosser et qui ne vivent pas dignement, qu'il n'y a pas un juste retour des choses. Alors par exemple, beaucoup voudraient faire valoir les accidents du travail qu'ils ont eus et qu'ils n'ont pas pu déclarer parce qu'ils ne connaissaient pas les rouages administratifs, toutes ces périodes de travail au noir aussi qui n'ont pas été déclarées. Et puis d'autres demandent, veulent obtenir le statut d'invalide à 100%, ça revenait souvent. Et ce n'est pas un statut, qui réclame uniquement pour éventuellement les avantages financiers que ça octroierait. Ils le demandent parce que c'est la reconnaissance d'un préjudice et d'une souffrance subie. C'est plutôt symbolique. Alors, c'est un peu technique, mais cet isolement psychologique, social, l'éloignement de la cellule familiale, l'inactivité, donc, puisqu'ils sont à la retraite, va créer ce qu'on appelle les conditions d'apparition de la sinistrose. C'est-à-dire, c'est un état mental pathologique qui fait qu'on veut toujours être reconnu comme accidenté. Je simplifie. D'autres vont demander que soit reconnue aussi leur participation à l'armée française et que ce ne soit pas 28 euros par mois et 98 euros par trimestre. Et puis, il y a sans arrêt, au quotidien, la préoccupation, d'accéder aux droits sociaux, que ce soit l'allocation supplémentaire, c'est une préoccupation permanente pour eux. La non-reconnaissance de la société d'accueil, elle va aussi faire, enfin, pour la majorité que j'ai rencontrée, faire qu'ils ne souhaitent pas acquérir la nationalité française. Je précise que c'est des Algériens, pour beaucoup, que j'ai interrogés, parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement, ça ne leur permettrait pas d'être perçus comme étrangers, ça je ne vous apprends rien, et qu'en plus, c'est insurmontable, le paradoxe est insurmontable d'acquérir la nationalité du pays, entre guillemets, colonisateur, qui a nié la violence même de nation par la colonisation. Mais il y a quand même une minorité qui souhaite accéder, se vacciner en fait contre l'expulsion, c'est-à-dire avoir une situation juridique qui ne serait pas précaire. Et pareil, j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a beaucoup qui la demandent, la nationalité française, et qui sont déboutés de leur demande parce qu'on leur dit que malgré leurs 30 ans ou 40 ans de présence en France, ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue française. Alors, tout cet état de santé que j'ai essayé de brosser, il va être aggravé par des conditions de vie précaire, une situation financière précaire. Alors, du fait des parcours chaotiques, travail au black, arrêt, retraite, accident, etc., ils touchent en majorité pour eux ce qu'on appelle le minimum vieillesse, qui est égal à 610 euros. À cette somme-là, il faut enlever le pécule qu'ils vont envoyer chaque mois à la famille restée au pays d'origine. Donc, ça va être une somme comprise entre 200 et 400 euros, qui témoigne de la précarité financière dont je vous parle. Juste un petit mot, parce que ça va être un enjeu important, c'est que pour toucher ce minimum vieillesse, il est soumis à une condition de résidence effective en France. C'est-à-dire, pour toucher des prestations sociales non contributives, il faut résider en France. Donc, d'où l'importance de modifier, me semble-t-il, cette condition de résidence. On va voir pourquoi après. À cela, une mauvaise nutrition et hygiène. Un exemple, vous êtes dans une chambre, vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas de plaque chauffante, les toilettes sont à l'extérieur, la douche est aussi à l'extérieur. Pas la peine de vous expliquer que ça va être difficile de se nourrir correctement. Et en plus, le budget consacré à l'alimentation est limité du fait du pécule qu'on envoie à la famille restée au pays d'origine. Donc voilà quelques témoignages de vieux qui te disent à 70 ans qu'ils mangent un sandwich sur le lit dans un hôtel meublé. Et presque le paradoxe à noter que la majorité souhaiterait vivre en foyer. Le foyer du centre-ville de Marseille reçoit 20 à 30 demandes par jour de ces vieux-là, pour ne pas vivre en hôtel meublé, alors que ce n'est pas la panacée, me semble-t-il, d'être dans une chambre en sonaco à 7 mètres carrés. Bon. Alors, pour faire le lien, le foyer est un habitat dégradé et inadapté pour ce public-là, mais la durée moyenne de résidence est importante. 30 ans, 40 ans, certains qui n'ont vécu que dans le même foyer depuis leur arrivée, parce que l'avantage fondamental, c'est le faible coût des loyers qui rend possible l'envoi de l'argent à la famille restée au pays. Exiguïté des chambres, partage des parties communes, cuisine et salle de bain. On les qualifie souvent d'isolés. Je me demande s'ils ont vraiment une réelle solitude. Ils sont isolés, mais ils ont rarement des possibilités d'être seuls. Donc il y a des projections qui sont effectuées par la Sonaco, maintenant l'actuelle Adoma, où il y aurait, et c'est le défi actuel, où il y aurait en 2008 un résident sur deux qui aura plus de 56 ans en 2008 et 3 sur 4 plus de 46 ans. Il faut noter à ces gens qui vivent en foyer et en hôtel meublé des gens qui sont réellement sans domicile fixe, aujourd'hui âgés, en errance dans les centres-villes anciens. Alors, pour clôturer cette toute petite partie, je pense qu'il faut faciliter, vous allez me dire, oh là là, la pauvre, elle rêve, faciliter le droit de vivre en famille, qui est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme dans l'article 8, donc assouplir ces conditions de ressources et de logement pour ceux qui ont choisi de faire venir leur famille, même tardivement, même si les travailleurs sociaux vont vous dire encore qu'après, il y a des conflits conjugaux à régler, c'est des choix personnels dans leur trajectoire. Réfléchir à la prise en charge médicale par rapport à la souffrance psychique, et puis pourquoi pas penser, alors sans le transposer dans toutes les régions de manière un peu sans réflexion, créer des lieux d'accueil de jour pour ce public-là. J'ai un peu de temps ou c'est... Ouais. Je vais vite là. Alors, il y a un accès, la partie que je commence, c'est un accès... Deux minutes ? Un accès aux soins pour les usagers pauvres, et pas précaires, pauvres. Alors, il y a un suivi médical qui se fait, c'est-à-dire que quand vous les interrogez, ils ont un médecin généraliste bien identifié, mais le suivi médical a du mal à se faire parce qu'ils sont dans cette pratique de l'aller-retour en permanence. De plus, il y a une offre de soins ségrégative, c'est-à-dire que dans le centre-ville de Marseille ou ailleurs, dans d'autres villes, certaines professions libérales refusent de se déplacer pour soigner sur des territoires qualifiés d'insalubres ou des populations précarisées qui ont la CMU ou la CMUC. Donc on aboutit en fait à des médecins ciblés
entre guillemets, personnes âgées immigrées. Tout ce qui est soins spécialisés, je vais pas rentrer dans les chiffres alors, hein. Les soins spécialisés, ils y accèdent pas. Ophtalmologie, dentaire, pourquoi ? Parce que pas de mutuelle. Et là, c'est important, ils n'ont pas la CMUC, ils n'ont pas la complémentaire. Vous allez me dire, comment ça se fait ? Parce qu'ils dépassent de 12 euros le plafond des ressources. C'est-à-dire, pour avoir la CMUC, comme par hasard, il faut avoir 598 euros, manque de peau, le minimum vieillesse, il est à 610. Donc, ces 12 euros de différence font qu'ils ne peuvent pas accéder à la complémentaire. Comment je fais ? Ouais, allez, le débat. Bon, il y avait l'aller-retour, tu dirais un peu, conditions de résidence.
Ouais. Merci Sylvie. Donc, on aura l'occasion encore de débattre sur ce problème de santé. Et donc, la parole à Antoine pour un peu plus élargir.